Les faux espoirs, c'est une expression qui désigne un mécanisme de défense que j'ai pris dans un livre dont je vous parle souvent, Guérir les traces du passé. Ce mécanisme de défense nous pousse à nier les besoins qui n'ont pas été comblés dans notre enfance et l'émotion qui y est rattachée en appliquant des stratégies comportementales et intellectuelles dans le présent. C'est en quelque sorte un mélange de déni, d'évitement et d'intellectualisation en lien avec des remises en acte dont je vous ai souvent parlé et les émotions douloureuses dans le présent, mais qui viennent en fait du passé. Les faux espoirs constituent un piège majeur dans le développement personnel. Bienvenue dans Hypnoconscience. Tu veux te prendre en main pour vrai, améliorer les différents aspects de ta vie, ton état émotionnel, ta vie de couple, ta vie professionnelle, ta vie avec tes enfants. Tu veux sortir des faux espoirs pour appliquer du concret? Ben, Hypnoconscience, c'est pour toi. Selon l'auteur de ce livre-là, Guérir les traces du passé, chaque besoin que nous ressentons excessivement dans le présent est en fait un besoin non comblé dans le passé. Par exemple, les remises en acte dont je parle souvent, c'est-à-dire quand les choses reviennent sans arrêt. On le voit beaucoup avec les 5 blessures de l'âme qu'à peu près tout le monde connaît. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation... j'oublie certains autres, mais vous comprenez le principe. Qu'est-ce qui fait qu'on l'a vécu enfant et que dans notre vie adulte, ça revient sans arrêt et on le perçoit sans arrêt? C'est ça, des remises en acte. On a aussi souvent le besoin d'approbation qui fait partie de ça, de reconnaissance, d'être entendu. En fait, c'est des besoins qui sont là, tout à fait normal en tant qu'adulte, mais qui normalement devraient pas être difficiles à être comblés en tant qu'adulte. Si on les perçoit non comblés, souvent ça vient de cette blessure-là, de cette perception-là d'enfant. Et peu importe ce qu'on va faire dans le présent, cette émotion-là ne sera jamais comblée, ou plutôt ce besoin-là ne sera jamais comblé, parce qu'il va toujours rester une espèce de vide relié à ce besoin-là par rapport à l'enfance. Donc, on revit intensément dans le présent ce qu'on a vécu enfant et tant qu'on n'y fera pas face, tant qu'on ne l'intègre pas, ben, ça ne sera jamais vraiment comblé dans le présent. L'auteur, dans son livre, donne un exemple intéressant. Elle dit, par exemple, si vous avez souffert de la faim, dans votre enfance, hein, vous avez manqué de nourriture, ben, même si dans la vie adulte, vous mangez avec excessivité, si ça se dit, ben, ça comblera jamais cette espèce de manque-là et cette espèce de trauma que ça a créé de ne pas avoir mangé à sa faim quand vous étiez enfant. On le voit beaucoup aussi avec le besoin d'approbation. Je vois des gens qui sont toujours frustrés au niveau du travail, frustrés au niveau de la vie de couple, parce qu'ils ont l'impression que le conjoint n'est pas d'accord ou qu'ils ne sont pas vus à leur juste valeur. Ils ont constamment besoin d'être approuvés dans ce qu'ils font ou d'avoir de la reconnaissance. Ça rentre dans la même chose, mais ce besoin-là n'est pas un besoin adulte. Adulte, on devrait être capable de faire nos choses, d'avoir suffisamment confiance en nous sans avoir besoin constamment d'approbation ou de reconnaissance. Un autre exemple dont je vous ai parlé souvent qui rentre dans les faux espoirs, c'est le faire pour être, hein, faire pour être aimé. Ces gens, particulièrement ces femmes, qui rendent service, qui se sacrifient, qui se saignent littéralement pour leur mari, leur famille, leurs amis, au travail, etc., toujours dans une espèce d'espoir, conscient ou inconscient, d'avoir de la reconnaissance, de l'amour, mais cette reconnaissance-là ne venant pas parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'on n'aime pas les gens pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont et comment ils nous font sentir. Donc, cette approbation-là et cet amour-là ne vient pas. Hein? Faux espoirs, stratégie qui ne marche pas. Et donc, cette personne-là va vivre beaucoup de frustration, de tristesse, de colère. va culpabiliser les autres et dire « Regarde, moi, j'arrête pas de faire des choses pour toi, je t'ai rendu service, toi, tu fais rien pour moi. » La personne se sentant culpabilisée, ben, va s'éloigner encore plus. Et c'est une roue qui s'achève pas. C'est l'exemple parfait d'un mécanisme de défense qu'on appelle les faux espoirs. Mon nom, c'est Pascal Brousseau. Si tu ne me connais pas, je t'invite à visiter mon site internet pascalbrousseau.com. J'en profite pour dire aux autres qui sont souvent allés sur mon site internet, il y a des changements. Je suis en train de migrer mon site internet sur une autre plateforme. Les choses vont changer. C'est fort possible qu'on, si vous avez déjà été sur mon site et acheté un de mes produits, que ce soit une formation, un atelier ou une rencontre en présentiel, qu'on vous demande de rentrer des nouvelles coordonnées et tout ça et de vous inscrire sur mon site parce que ça va être totalement un nouvel univers. Mon objectif étant d'être plus efficace et de pouvoir aider le plus de gens possible. Donc, je t'invite à aller sur mon site, pascalbrousseau.com, et tu vas avoir le lien en commentaire. Et si tu as envie de te joindre au groupe Hypnoconscience, spécialement conçu pour mes auditeurs de podcast, ben, tu vas trouver le lien en description plutôt, pas en commentaire, et tu pourras nous rejoindre, poser tes questions, me suggérer, et pourquoi pas me dire comment tu as trouvé cet épisode-là. Donc, si je continue avec les faux espoirs, je vous ai dit d'emblée que pour moi, lorsque je l'analyse, c'est une espèce de mélange de déni, d'évitement et d'intellectualisation, et je vais m'expliquer. Le déni, bien sûr, est inconscient. C'est pas, la plupart du temps, je choisis de faire comme si cette chose-là n'existait pas. C'est un mécanisme inconscient qui sert à nous protéger de la souffrance. Parfois, le déni s'installe simplement parce qu'on le sait pas, que ça existe, que notre enfance a eu un impact. Parfois, c'est simplement parce qu'on ne se donne pas la peine de s'informer, d'aller voir, ou simplement par peur ou par ignorance. Mais il reste qu'on vit notre vie présente en étant dans une espèce de déni de tout l'impact qu'a eu notre vie passée, particulièrement l'enfance, et le fait que certains besoins fondamentaux n'ont pas été comblés. Ensuite, on a l'évitement. L'évitement, c'est d'éviter de faire face à l'émotion ou à la situation et mettre en place des stratégies, c'est-à-dire soit littéralement la fuite, soit trouver d'autres aspects ou d'autres avenues pour affronter une situation sans la regarder en face, sans avoir à toucher la réalité qui est là. Donc, on passe par une autre réalité ou en fait une autre situation qui n'est pas du tout réelle. Et l'intellectualisation, c'est un mécanisme de défense aussi. C'est une façon de mettre en place une théorie plausible pour se convaincre de la réalité de la stratégie et de son efficacité. Je vous parlais de l'évitement, on met des nouvelles stratégies en place. Ben, l'intellectualisation, en quelque sorte, c'est une façon de s'expliquer avec une théorie qu'on croit plausible pour se convaincre que ce qu'on fait est réel et va donner du résultat alors que ça n'en donne pas. Donc, avec ces trois ingrédients-là, vous avez le cocktail parfait pour les faux espoirs. Exemple, si je me dis, ben, si je fais mon lit, ma mère va m'aimer. En fait, c'est une mauvaise stratégie. Si je fais mon lit, la réalité, c'est que je vais satisfaire le besoin de ma mère qui est d'avoir une maison bien rangée. La réalité, c'est qu'elle ne va pas m'aimer plus ou moins. Si ma mère m'aime, elle m'aime. Si elle ne m'aime pas, elle ne m'aime pas. Et probablement, peu importe ce que je vais faire, ça ne changera rien. Celle-là est un exemple un petit peu plus enfantile, mais en même temps, si je rends service et que je me sacrifie, je vais être une bonne personne. Bien sûr, on a tendance à penser ça et on va construire une identité sur le fait qu'on se sacrifie, qu'on rend don des services, qu'on fait don des choses pour les autres. Mais tout ça va cacher une espèce d'évitement de faire face à la culpabilité profonde que l'on ressent. Cette peur de ne pas être une bonne personne ou cette perception enfin qu'on a eue de ne pas avoir été à la hauteur, d'avoir commis des erreurs, d'avoir été méchant ou méchante, etc. Donc, qui va cacher une culpabilité sous-jacente. Un autre exemple, si je fais aucune erreur, je vais être aimé. Et ça, je le vois énormément. chez mes petites perfectionnistes. Là. Ils vont me consulter parce qu'ils sont complètement au bout du rouleau. Ils font de l'anxiété à côté, sont pratiquement en burn-out. Tout ça parce que sans arrêt, dans tous les aspects de leur vie, elles veulent être parfaites. Parce que l'espoir est que si je suis parfaite, je vais avoir de la reconnaissance, je vais être aimée et on va m'accepter. Et tout ça n'a rien à voir avec le présent. C'est habituellement une espèce de pression que les gens ont perçue, qui se sont mis eux-mêmes ou qui était réelle, venant des parents quand ils étaient jeunes. Et tout ça s'est cristallisé. Et à travers cette cristallisation-là, c'est comme une lentille, une lunette à travers laquelle on perçoit la vie et au final qui n'est pas réelle. Que tu fasses des erreurs ou que tu n'en fasses pas du tout, le problème, puisque c'est ça que les gens remarquent, c'est que le mari, les enfants, les gens au bureau ne les apprécient pas plus pour autant. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle les faux espoirs. Pardon. Donc, peu importe ce que tu vas faire avec ce type de mécanisme-là, c'est voué à l'échec. Parce que le besoin et l'émotion qui viennent du passé vont toujours être présents tant que la réalité passée ne sera pas intégrée. Et là, j'insiste sur le mot « intégrer ». Parce qu'une prise de conscience, ce n'est pas suffisant. Savoir qu'on a vécu ça, ce n'est pas suffisant. Il y a des méthodes, il y a des techniques efficaces, particulièrement l'observation consciente à répétition, va nous permettre d'aller intégrer et d'apaiser l'émotion qui est reliée à ça, ce qui fait que c'est comme une blessure ou une brûlure qui va être apaisée, elle ne sera plus aussi sensible dans le présent, ce qui va complètement, littéralement, modifier votre état émotionnel et modifier vos relations. Et pourquoi j'ai fait cet épisode-là? C'est beaucoup parce que dans le monde du développement personnel et de la spiritualité, c'est rempli de faux espoirs ou de ce que j'appelle du tourisme spirituel. Et c'est le fun du tourisme spirituel. J'en ai fait plein, des ateliers, des affaires un peu foufou, où on se fait accroire un paquet d'affaires et que tel rituel va régler tel problème ou que les guides vont le faire pour nous autres et tout ça et tout ça. J'ai rien contre ça et je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas heurter personne, pour ne pas blesser personne, mais je vais vous dire après ça comment voir, discerner ce qui est un faux espoir de ce qui est réel. Le seul exemple que je vais prendre ici, c'est l'exemple que je prends souvent des bols tibétains. Les bols tibétains, c'est super intéressant, ça fait une belle vibration, c'est extraordinaire. Mais si je ne me trompe pas, et je peux me tromper, les tibétains, les moines bouddhistes tibétains, utilisaient ces bols-là dans le but d'aider à être en transe, c'est-à-dire à induire des états de conscience modifiés. À partir des états de conscience modifiés, ben, ils faisaient leurs différents méditations, leurs différents rituels et qui les aidaient à atteindre certains états, à obtenir certains résultats. Le problème, c'est que le côté New Age d'aujourd'hui, on nous dit « Ah, le bol tibétain vibre, je ne sais pas, moi je dis à 332 Hz et ça va guérir toutes tes blessures émotionnelles et ça va ouvrir ton chakra du cœur et tout ça. » Ça, c'est l'intellectualisation. On t'explique une belle théorie qui te fait croire que ça va fonctionner et que tous tes problèmes vont être réglés. Mais je peux vous dire une affaire, à l'âge de 30 ans, je l'ai faite. J'allais dans des rencontres, des cérémonies avec une coach que j'ai adorée, mais qui nous faisait coucher sur le dos avec de la musique et qui se promenait, qui nous mettait le bol tibétain sur le chakra du cœur et là, elle le faisait vibrer, c'était supposé effacer toutes nos souffrances et alléger notre cœur. Ben, je peux vous dire que c'était super le fun sur le coup, parce que quand on a une belle intellectualisation avec l'évitement et tout ça, comme je vous dis, ça crée un effet placebo. C'est-à-dire qu'on se sent allégé, on se sent bien sur le coup. Ah, c'est donc extraordinaire. Mais si vous regardez le lendemain, même les heures suivantes, les jours, les semaines, les mois qui vont suivre, il n'y a absolument rien qui est réglé dans votre vie. Il n'y a absolument rien qui a changé. Et les mêmes émotions de merde vont revenir. C'est ce qu'on appelle des faux espoirs. Maintenant, et je veux dire, j'ai fait ça en masse, comme je vous dis, à 30 ans, mais j'ai pas libéré mes émotions avant que j'utilise l'observation consciente et des techniques éprouvées de PNL, d'hypnose et autres de psychologie dans la quarantaine. Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, comment savoir, parce que je ne commencerai pas à énumérer tout ce qui, pour moi, pourrait être des faux espoirs, parce que je peux me tromper, je n'ai pas tout essayé, mais comment savoir que ça fonctionne et que ce n'est pas des faux espoirs? Ben, je vous en ai déjà parlé, c'est les trois manifestations concrètes. Vous allez avoir à évaluer. À évaluer avec votre logique. C'est-à-dire, est-ce que, et là je ne parle pas suite à une rencontre, c'est sûr que si quelqu'un vient me voir une fois, il ne pourra pas mesurer ces trois manifestations concrètes-là. Je parle quand l'atelier est terminé, ou le cheminement est fait, ou les rencontres de thérapie, en hypnothérapie, ou peu importe, sont faites. Est-ce que, soit, il y a eu des changements dans mon corps? Est-ce que j'ai une posture différente? Est-ce que j'ai une douleur qui est partie ou qui a diminué? Est-ce que j'ai une maladie qui est partie ou qui a diminué? Pas juste, je me sens bien, tout d'un coup, j'ai un petit apaisement de stress et d'anxiété. C'est pas suffisant. Est-ce que j'ai quelque chose qui a changé fondamentalement dans mon corps? Deuxièmement, est-ce que quelque chose a changé réellement dans mes comportements? Est-ce que je remarque moi-même que je ne réagis plus émotionnellement de la même façon? Que ce qui avant m'atteignait, me faisait pleurer, me mettait en colère ou peu importe, est-ce que je réalise que maintenant ça ne me fait plus rien? On doit vraiment se surprendre soi-même à dire « Hein, j'ai plus pantoute les mêmes réactions. J'ai plus pantoute la même perception et ça ne me dérange plus. » Et la troisième manifestation, est-ce que les autres s'en rendent compte? Est-ce que les gens autour de toi, tes amis, disent « Hey, tabarouette, Julie, là, je ne la reconnais plus, elle a changé. » Et souvent, ils vont vous le dire parce que pour certains, ça va être positif, mais je dirais que pour la majorité des gens, ça va être négatif. Parce que si vous changez, vous allez probablement arrêter de faire pour être, arrêter d'être à leur merci, arrêter de leur rendre service, penser un peu plus à vous. Et là, on va vous dire, t'as changé, Julie. T'es rendu égoïste. Tu penses juste à toi, t'es plus pareil. Ben bravo, c'est probablement une maudite bonne affaire. Et faites attention à vous laisser détruire par ce type de commentaires-là. Et je pourrais rajouter, dépendamment ce à quoi, on va dire, on s'attaque, ce sur quoi on travaille, est-ce que la manifestation extérieure de ma vie a changé? Exemple, si je travaille sur mes croyances en lien avec l'argent et que je décide de manifester plus de succès et d'abondance, est-ce que ça change? Est-ce que je peux mesurer, hey, tabarouette, au bout de 3 mois, j'ai doublé mes revenus, ou j'ai doublé mes followers sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'on peut mesurer des changements à l'extérieur? Si c'est le cas, ça veut dire que votre stratégie a fonctionné. Si c'est pas le cas, vérifiez, c'est possiblement des faux espoirs. Un autre exemple, souvent qui peut être subtil, et que je vois souvent chez les couples et que j'ai vécu moi-même. Après une chicane de couple, on se dit dans notre tête, bon, on s'est chicané, là, on a mis carte sur table, on en a bien parlé, il m'a exprimé ses affaires, j'ai exprimé les miennes, ça va être réglé maintenant, là, parce qu'on en a parlé. Qui s'est déjà dit ça, qui m'écoute, et que 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après, la chicane sur exactement le même maudit sujet revient? Exemple, l'argent. Ben, si c'est ton cas, c'est parce que ça fait partie des faux espoirs. Tu t'es dit, comme on en a parlé, ça va être réglé. La réalité, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui vous amène à ne pas penser de la même façon, qui est émotionnel, et cette émotion-là va revenir. Si je prends un exemple, l'argent. Souvent, t'en as un qui est économe dans le couple et t'en as un qui est un petit peu plus dépensier. Et on a beau se jaser, l'un va dire « c'est ça, t'es un maudit gratteux, t'es insécure financièrement », alors que c'est pas ça. Et l'autre va dire « t'es dépensière, ça n'a pas de bon sens, tu gaspilles l'argent, tu sais pas gérer ». alors que le besoin fondamental n'a jamais été nommé. Peut-être que celui qui est plus économe a un besoin de liberté future, pas nécessairement juste de sécurité. Mais lorsqu'il applique son besoin de liberté future, l'autre a tout simplement un sentiment de brimer sa liberté présente, de ne pas pouvoir profiter de la vie. Alors que tous les deux voudraient profiter de la vie et se sentir libres, ils n'ont juste pas la même stratégie pour y arriver. C'est pour ça que c'est important d'aller voir c'est quoi l'impact, c'est quoi le vrai besoin, et la communication non-violente est extraordinaire pour ça. Et d'où ça vient ce besoin-là et comment on peut arriver à combler nos besoins respectifs. Mais si on parle juste de l'extérieur et de nos perceptions, ben c'est un faux espoir et on n'arrivera pas à des résultats concrets. Parlant de couple, je t'avise que je lance mon atelier « Cultiver l'amour et l'énergie vitale ». C'est la troisième fois, je crois que je vais le donner, ou la quatrième fois. Ça va être le 9 et le 10 mars, donc si 2024. Donc, si tu écoutes en différé et que c'est passé, désolé pour toi. Mais tu peux quand même aller voir sur mon site internet, parce que c'est une formation, un atelier que je vais donner un bon 2-3 fois par année. C'est une approche concrète. Sans faux espoirs, je te le garantis, ni rituel New Age. Tu peux trouver toutes les infos sur mon site, là, pascalbrousseau.com. Mais en gros, cet atelier-là, Cultiver l'amour et l'énergie vitale, c'est à moitié une exploration de l'inconscient pour aller éliminer tous les blocages qui peuvent t'empêcher d'être épanoui au niveau amoureux, d'attirer le bon partenaire ou de brimer ta communication au sein du couple et tout ça, arriver à régler tout ça pour te diriger progressivement vers un couple qu'on appelle le couple conscient et non pas le couple de réparation. J'en ai déjà parlé, ça aussi, les trois couples là, dans les premiers épisodes que j'ai fait. Et la deuxième partie, c'est une partie plus énergétique basée sur le Qigong, donc c'est pas des histoires farfelues, c'est basé sur mes presque 30 années d'études du Qigong, comment ressentir l'énergie, la faire circuler pour utiliser cette énergie-là sexuelle, l'énergie du désir, pour nourrir le cœur et amplifier l'amour et les états de conscience modifiés à deux qui font que l'union, la connexion devient nettement plus profonde et qu'on atteint des relations intimes beaucoup moins mécaniques et beaucoup plus énergétiques et approfondies et connectées. Donc, ben, je t'invite à aller voir ça. Donc, je reviens aux faux espoirs. Un autre exemple que je voulais te donner, parce que les faux espoirs, pour t'exprimer, puis c'est un film super intéressant, comment les faux espoirs vont empirer habituellement la situation. Je ne sais pas si tu as vu le film Le Mirage avec Louis Morissette. Eux autres, ils ont plein de problèmes. Ils vont faire faillite. Ils sont débordés parce que dans leur recherche du bonheur, ils achètent du matériel. Et une fois que rien ne va plus au niveau du couple, une fois que rien ne va plus au niveau de leur santé mentale, une fois que rien ne va plus au niveau de leur santé financière, Louis dit « Hey, on va aller dans le sud, là, on va aller à Cuba, ça va nous faire du bien, là, on va revenir puis on va être correct. » Ben ça, je peux te garantir que c'est un faux espoir parce que sur le coup, ça va avoir un effet placebo, ils vont peut-être se détendre, mais quand ils vont revenir, il n'y a aucun problème qui va être réglé et ils vont juste être plus endettés. Donc, je voulais faire cette petite parenthèse-là parce que je trouvais ça drôle, ce film-là qui est un bel exemple de faux espoir. Donc, l'objectif, si on veut bypasser les faux espoirs et aller à la réalité, ben, c'est d'aller à la rencontre intérieure de nos besoins et de comprendre leur origine non comblée pour leur faire face, comme je disais, et les intégrer. Parce qu'une fois intégrés et apaisés, ils vont devenir plus équilibrés dans le présent. Ce qui fait que ça va devenir un besoin normal, comme le besoin d'être entendu, mais ça ne sera pas un besoin exacerbé, qui crée souvent des problèmes parce que nous, on est convaincus que notre conjoint ne nous comprend pas, ne nous écoute pas, alors que lui, il dit « Voyons, si je fais rien que ça, l'écouter, mais à un moment donné, il y a des limites. » Donc, on arrive à trouver un équilibre dans ça. Et tout ça ne se fait pas par magie, bien sûr. On a besoin de bons outils. On a besoin de répétition. Je ne pourrai jamais assez répéter de le dire. Et c'est important de valider les résultats avec des mesures fiables, soit les 3-4 mesures que je vous ai données au préalable pour savoir est-ce que vraiment je l'ai réglé ou je ne suis pas en train de tomber dans les faux espoirs. Et bien sûr, pour ça, malgré tous les autres outils comme hypnose, auto-hypnose, PNL ou peu importe ce qui pourrait exister sur le marché, tu vas avoir besoin de tes deux outils extraordinaires que tu possèdes, soit le cerveau rationnel et ce que j'appellerais le cerveau instinctif inconscient. Donc le côté plus masculin, le côté plus féminin, le côté plus rapide et extérieur, le côté plus lent, intérieur et profond et émotionnel. D'ailleurs, c'est le sujet du prochain épisode. Les deux outils extraordinaires. Je ne savais pas comment l'appeler. Est-ce que j'appelle ça les deux cerveaux? Non, c'est pas deux cerveaux. Est-ce que c'est deux parties de cerveau? Non. C'est juste deux façons de l'utiliser. Mais souvent, on a tendance à en tasser une pour utiliser seulement l'autre. Comme je le dis souvent, on est dans un monde où on utilise beaucoup le cerveau rationnel. Et ça crée énormément de carences dans nos vies parce que chacun des deux outils a ses lacunes, peut nous mener dans l'échec ou dans l'erreur. Par exemple, les gens qui rejettent totalement le cerveau rationnel vont avoir tendance à me dire « Pascal, t'es trop dans ta tête » et vont se fier beaucoup à leur intuition, à leur ressenti. Mais ils ne vont jamais aller valider s'ils se sont trompés. Parce que dans les deux cas, on peut toujours se tromper. Et la meilleure façon de ne pas se tromper, c'est d'utiliser les deux. C'est de valider les résultats de chacun à partir de l'outil inverse. Donc, sujet du prochain épisode. Je t'invite à découvrir les faux espoirs dans ta vie, comment tu les appliques, puis s'il te plaît, venir me les partager sur le groupe Hypnoconscience, dont le lien est en description, si tu ne fais pas déjà partie du groupe. Je t'invite à ne pas être gêné à le faire, parce que quand tu vas le faire, il y a d'autres personnes, peut-être que tu vas poser des questions que d'autres ont peur de poser et ça va un peu les réveiller, les shaker. Le but, c'est qu'ensemble, on puisse s'aider à avancer le plus possible et atteindre une autonomie. Sur ce, ben, je te remercie énormément d'avoir écouté cet épisode-là jusqu'à la fin. Je te salue et je te dis à la prochaine pour le prochain épisode sur les deux parties ou les deux outils extraordinaires qu'on possède, dont je n'ai pas vraiment trouvé le nom encore. Bye!